regrette beaucoup de ne pas parler plusieurs langues, parce que je trouve que c'est un enrichissement réel que de pouvoir s'exprimer dans une langue qui n'est pas maternelle. Parce que vous quittez justement la protection de la langue maternelle, vous vous aventurez dans des territoires inconnus et vous devenez une autre.
Le Grand Atelier sur France Inter.
On ne résume pas Florence Delay à une activité. D'accord, elle est écrivain, romancière, essayiste, membre de l'Académie française, mais c'est aussi une agrégée et traductrice d'espagnol. Et puis il y a en elle une enseignante, ce métier tant aimé, longtemps exercé à la Sorbonne. Plutôt que d'énumérer ses diverses fonctions, il faut, pour brosser son portrait, décrire ses goûts, nombreux. Elle est une femme de passion. Outre l'Espagne et sa langue, Florence Delay aime le théâtre. Jeune fille, après avoir incarné à l'écran à 20 ans Jeanne d'Arc, dirigée par Robert Bresson, elle a soufflé son texte à Jean Villard, à Avignon, et joué, plus tard, dans la cour d'honneur, le rôle d'un évêque dans Richard II de Shakespeare. Il faut surtout parler de ses amitiés durables, celles qui la lient à l'écrivain Natacha Michel depuis l'enfance, ou au poète Jacques Roubaud, avec qui elle a écrit du théâtre. Bonjour Florence Delay.
Bonjour Vincent Josse.
À vos goûts, pour compléter ce portrait, j'en ajoute un que vous avez l'air d'assumer parfaitement.
Je fume comme je respire. Comme un pompier, non, c'est bien pire. L'oxygène est un vieux souvenir.
On ne peut pas imaginer une Florence Delay sans cigarette.
Oh, écoutez, je suis condamnée par un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Mes cendriers » et je ne peux pas lui être infidèle. Donc, évidemment, le corps médical m'a demandé de diminuer. Je lui ai obéi. Morale, j'écris beaucoup moins. Et maintenant, mes livres deviennent tout petits. Car la cigarette est vraiment liée au travail.
On écrit plus quand on fume ?
Ah !
Et mieux ?
Non, je ne sais pas. Mais on a chacun ses fantômes et la cigarette est une très bonne compagne, hélas.
Je peux voir vos cigarettes ?
Ah, il faut que je vous sorte. Parce que j'ai un porte-cigarette. Parce que je ne peux pas supporter la mention « fumais-tu ». Alors je me suis acheté un porte-cigarette dans la maison de Frida Kahlo, à Mexico, qui représente un tableau de Diego Rivera, son amour et son amant, qui représente la mort en direct. Donc je préfère avoir la mort en direct que une mention désagréable.
J'aime bien ce livre que vous avez évoqué, vous l'avez écrit en 2010, Florence Delay, Mes cendriers. Effectivement, vous vous êtes un peu amusée à rechercher tous les cendriers qui sont chez vous, à Paris, dans votre appartement. Et puis, certains ont été offerts par des étudiants, par exemple. Vous évoquez ces souvenirs-là, mais aussi, ça vous permet de parler de vous et peut-être de fantômes. C'est un mot que vous venez d'employer, de ceux qui sont morts. Mes cendriers, les cendres.
Je n'ai pas une très bonne mémoire. Et d'ailleurs, je n'ai jamais cherché la mémoire. Au contraire, j'aime l'oubli. Mais de temps en temps, j'en ai besoin de la mémoire. Et il me semble que les objets la contiennent. Les objets suscitent une histoire, suscitent un lieu. Ils ont une histoire et une géographie. Et voilà ce que j'ai tenté avec eux. D'ailleurs, vous voyez, j'ai besoin des objets. Pour notre émission, j'ai apporté un objet magique.
Qui est devant vous, là, c'est quoi ? Une pyramide ?
C'est une pyramide en verre qui m'a été offerte par Alain Cavalier. Et elle est posée sur ma table et je trouve merveilleux qu'il m'ait offert une pyramide. Parce que la pyramide est un tombeau dont on peut sortir. Comme disent les anciens Égyptiens, sortir au jour. Parce que pour eux, la mort, si on est passé pur devant Osiris, qui pèse votre cœur dans une balance, et votre cœur doit être aussi léger que la plume, si on est donc déclaré juste devant Osiris, à ce moment-là, c'est un voyage qui ne s'achève jamais. On monte dans la barque du soleil, Ra ou Ré, et on fait le tour de la terre tous les jours. Et puis la nuit, on rentre dans la terre pour ressortir à l'autre bout et recommencer éternellement. Donc voilà, ma pyramide rassemble tous mes amis et tous mes projets d'avenir.
Maintenant que nous vous avons situé, on va poursuivre pendant 2 heures votre portrait avec vos invités, puisque les invités aussi situent une personne. J'en ai cité 2, Jacques Roubaud et Natacha Michel, mais il y a aussi avec nous l'homme qui vous a offert cette pyramide en verre, c'est Alain Cavalier. Bonjour monsieur le cinéaste.
Bonjour.
La Chamade, Thérèse, Le Filmeur, Irène, Pater, ce sont quelques-uns de vos films. À vos côtés, bras croisés, il y a un écrivain, poète, désormais directeur des éditions POL. Bonjour Frédéric Boyer.
Bonjour.
Vous connaissez bien vous France Inter, vous avez eu le prix du livre Inter pour Des choses idiotes et douces en 1993.
Oui, c'était il y a longtemps.
C'était il y a longtemps, on s'en souvient bien ici. Votre dernier livre est un livre d'amour à celle que vous avez perdue l'année dernière, Anne Dufour-Mantel. Peut-être pas immortelle, c'est le titre, on va en parler. Je précise que vous avez aussi dirigé une nouvelle traduction de la Bible pour Bayard, c'était en 2001. Voilà, j'ai tout dit ou presque, puisqu'on ira aussi ensemble, Florence Delay, visiter l'exposition consacrée au cinéaste Chris Marker à la Cinémathèque française. Bienvenue dans le Grand Atelier, on écoute tout de suite l'américaine Janelle Monáe dans son bel hommage à Prince, à Kiss de Prince.
Yeah. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make
me feel. Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
You know I love it, so please don't stop it.
You got me right here in your jean pocket right now. Laying your body on the shag carpet. Ooh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. Oh. That's just the way you make me feel.
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 So good, so good, so fucking real.
So good, so good, so fucking
real. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
Florence Delay, la langue française et espagnole, le travail sur le dictionnaire que vous menez toutes les semaines à l'Académie française, le théâtre, il y a beaucoup de choses dans votre vie. Je me dis qu'une vie, ce n'est pas assez pour vous.
Une vie n'est pas assez pour tout le monde. Mais tout le monde ne le sait pas. On devrait nous apprendre, nous enseigner, très jeunes, à ne pas tenir la ligne droite, ne pas être sur des rails, choisir des embranchements. C'est pour ça que un des titres de Dickens que je préfère, c'est l'embranchement de Mugby. Bon, c'est lié au train, bien sûr. Mais il y a aussi les embranchements dans la forêt, les carrefours. Et puis, dans les carrefours, il y a des demoiselles du carrefour qui, indique des routes vers les aventures.
Mais comment vous avez compris ça et su ça, vous ?
En aimant la légèreté et en prenant assez vite comme modèle la girouette qui tourne à tous les vents et d'accepter de changer. Mais peut-être que mon goût du théâtre m'a guidée, finalement, changer le plus possible.
Vous pensez que, que le théâtre rend aventureux ?
Oui, c'est ce que j'aime en lui. J'aime les aventures en général. Mais ça ne m'empêche pas d'être fidèle.
On va s'en rendre compte dans cette émission que vous n'êtes pas légère en ce qui concerne l'amitié. Je le disais, il y a Frédéric Boyer, l'écrivain, et puis le cinéaste Alain Cavalier. Vous définissez aussi un peu Alain Cavalier quand vous dites « il faut aimer bifurquer ». C'est quelqu'un qui a pris des virages dans sa vie, Alain Cavalier. Est-ce pour cela que vous avez souhaité sa présence dans votre grand atelier ?
Alors, il y a deux raisons. La première est sa libération. Il s'est libéré du cinéma comme institution terrible.
Ah oui, au départ, il fait des films, j'allais dire comme tout le monde, c'est-à-dire avec une histoire, un scénario, des vedettes. Le combat dans l'île, c'est Trintignant et Romy Schneider qui va devenir une vedette. L'insoumis, c'est Alain Delon. Et puis ensuite, il part vers un cinéma beaucoup plus personnel.
Déjà, il était personnel. Je parlais plutôt du poids de la production, du fric. Et petit à petit, il est allé vers la liberté. La liberté qui est avant tout la solitude. C'est-à-dire pouvoir être le maître de son temps, c'est-à-dire pouvoir filmer quelqu'un régulièrement pendant des années.
Soi-même avec une petite caméra.
Et pouvoir aborder finalement tous les sujets les plus coûteux. Je pense au Paradis. Le Paradis est un film d'Alain Cavalier où nous pouvons retrouver Ulysse, Job, certain nombre de mythes, c'est-à-dire ce pourquoi Hollywood dépenserait des centaines de gens. Et là, non, il suffit d'un petit robot. Ça, cette libération est capitale pour moi. Et puis ensuite, tous les sujets qu'il aborde.
Alain Cavalier, vous écoutez très attentivement ce que nous disons de vous. Est-ce que vous vous souvenez du moment, peut-être que ce sont plusieurs moments, où vous avez décidé de changer la façon de faire du cinéma ?
Oh, c'est des petits sauts de puce, hein. La liberté économique d'abord, et puis après la technique. On vous offre un jour une caméra au bout du bras, qui n'est pas chère, il n'y a pas d'équipe. Donc tout ça fait qu'un jour, vous redécouvrez la vie, vous redécouvrez le cinéma, et vous essayez de faire avec ce que vous avez, et vous ne faites pas la même chose.
Mais vous avez souffert du poids d'une production cinématographique ?
Évidemment, mais comme j'étais jeune et costaud à l'époque, le combat ne me gênait pas du tout. Avec l'argent, avec les comédiens, avec les maquillages le matin qui ne finissaient pas des comédiennes, et avec le charme du travail en équipe. Et puis un jour, je me suis trouvé, pendant un tournage, devant l'absolue vacuité de tout ça, et de moi, devant le vide, j'ai eu un fou rire extraordinaire. Et intérieur, fabuleux,
libérateur.
J'étais libre, j'étais libéré. Et j'étais très content de ce que je faisais. Et je l'ai terminé avec des gens extrêmement gracieux.
C'était aussi. Quoi ce film-là ?
C'est d'après un roman de François Sagan, ça s'appelait La Chamade, avec Catherine Deneuve.
68.
Où elle était absolument magnifique.
Ah oui, très beau film.
Naturelle, parfaite dès la première prise, juste. Elle avait 24 ans, c'était l'idéal. Et j'avais fait l'adaptation avec François Sagan. On ne pouvait pas rêver mieux comme compagnon de travail.
Avec Piccoli.
Voilà. Et bien c'est ce moment-là que j'ai choisi pour filer à l'anglaise.
Qu'est-ce que vous pouvez bien raconter qui vous fait tellement rire ? Dites-moi un peu.
Je crois que j'ai dit une bêtise.
Ah bon ? Bah alors dites-moi, qu'on profite, qu'on s'amuse.
Je crois que j'ai déjà oublié, c'est ça la faute.
Charles, je crois que j'ai trop oublié.
Ça vous va très bien. Je vous raccompagne ?
Je crois que ce serait plus raisonnable.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Je crois qu'il faudrait mieux rentrer maintenant.
Vous avez vraiment bu ou quoi ?
Oui.
Quand vous prenez votre caméra, Alain Cavalier, c'est pour raconter des choses intimes, des choses de votre vie que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre. C'est aussi pour aller vers les autres. Florence Delay le disait, vous êtes un homme qui aime le portrait. Vous interrogez avec votre caméra. Est-ce qu'il y a des portraits d'Alain Cavalier qui vous frappent et que vous retenez, Florence Delay?
Évidemment, les deux portraits préférés, long portrait de 52 minutes, c'est les deux derniers que j'ai vus. J'ai eu le bonheur de voir Jacotte et Léon. Et ces deux films tournés par lui de façon très différente, parce que l'un, c'est une femme qui l'a suivi depuis 95 et qui l'a filmé pendant plus d'une dizaine d'années de façon régulière dans son aventure étonnante qui est que cette femme a gardé tous les objets, les meubles, la maison de son enfance intacte.
Oui, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se séparer de son enfance, Alain Cavalier, cette Jacotte.
Oui, elle le dit d'ailleurs, que sa vie s'est pratiquement arrêtée après son enfance. Ses parents meurent et elle veut que son enfance reste.
Comment vous la rencontrez? Comment vous vous dites, cette femme-là vit quelque chose d'extraordinaire qui mérite d'être filmée?
Je la connais depuis qu'on a 25 ans. Donc elle m'a accepté, puis ça l'amusait. Et puis je disais, je fais ça pour toi. Je fais pas ça pour montrer au public. Je fais ça pour te faire un petit portrait de ta particularité.
Est-ce que c'est vrai ou faux, ça?
Ah, c'est entièrement juste.
Parce que vous pensez à nous aussi quand vous la filmez. À nous qu'allons la regarder.
Non, je pense à vous quand je fais le montage, mais pas quand je tourne.
Vous êtes vraiment avec elle pour elle?
Je suis avec elle, mais tant qu'il n'y a pas un petit récit en route, il n'y a pas de film. Et un jour, il y a des petits problèmes d'argent qui se posent et on commence à vendre le rez-de-chaussée. Alors le rez-de-chaussée, tout doit passer au premier. Après on vend le premier, tout doit passer au deuxième. Et tout finit dans le grenier. Il y a 14 armoires dans le grenier. On visite ça au mois d'août. Il y a une canicule terrible et elle continue à ouvrir tout. Alors, à un moment, on s'est regardé, on y est allé deux ou trois fois dans le grenier, et puis à un moment, on a compris que je ne pouvais plus continuer à revenir. Le film était achevé, il y avait la chute de l'histoire.
Frédéric Boyer, c'est totalement romanesque ce qu'évoque Alain Cavalier, le cinéaste.
Oui, tout à fait.
Ça pourrait donner lieu à un roman.
Oui, enfin, c'est un récit, mais c'est ce qu'il a fait, de toute façon, sûrement. Voilà, il s'est servi de ça. Et oui, alors, ce qui est beau, c'est cette histoire d'arrêt sur l'enfance, comme ça, qui est étrange. Et la conservation, comme ça, de petites momies de l'enfance.
Et alors, Jacotte parle quasiment avec indifférence de sa propre mort, en disant de toute façon, ils sont là, les objets. Ils sont là, ils resteront là, moi je peux m'en aller, mais ils sont là. Ce qui est quand même très très étonnant. Donc, l'idée qu'ils vont survivre.
Vous avez ce rapport-là, vous, aux objets, Laurence Delay? Vous avez apporté la pyramide que vous a offerte Alain Cavalier. On a évoqué vos cendriers en début d'émission.
Non, moi j'ai un rapport magique. Savoir s'il rayonne encore pour moi ou pas.
Vous n'êtes pas une nostalgique, vous?
Non. J'ai trop d'avenir devant moi pour être nostalgique. Je voulais juste aussi dire, par rapport au deuxième film que j'ai vu de Cavalier, là, Léon, le cordonnier, c'est que il filme ce qui est le plus difficile à décrire avec des mots, les gestes du travail et du travail manuel.
Vous avez toujours été passionné par le geste, par l'artisanat, par la façon, Alain Cavalier. Vous avez filmé une matelassière, vous avez filmé une dame pipi. Aussi haut, je voudrais qu'on entende cette dame pipi qui était dans un film de 1987, 24 portraits d'Alain Cavalier. Elle était dame pipi au magasin Le Printemps.
Il vous arrive de trouver des choses dans les...
Ah oui, je trouve de temps en temps des portefeuilles.
Et puis...
Des porte-monnaies aussi.
Et puis, vous verrez...
Tiens, regardez! Non, mais...
C'est extraordinaire, ça.
Non, mais écoutez...
Ça, c'est fou, ça.
Il n'y a pas d'argent.
Il y a une photo.
Voyez, c'est courant.
Vous remplacez souvent le papier? Il y a des gens qui emportent le papier?
Très souvent, oui.
J'ai fait un petit calcul, alors. J'ai fait un petit calcul. Vous travaillez à peu près 300 jours par an, hein?
Oui.
Vous travaillez 10 heures. Et puis, vous êtes là, dans votre sous-marin, là, depuis 27 ans. Vous venez depuis 27 ans.
Oui.
Alors, ça fait 81 000 heures de travail ici. Je suppose que vous n'êtes pas claustrophobe.
Non.
Hein, et que vous avez une santé solide.
Assez.
Hein?
Assez.
Vous
J'ai commencé au premier étage comme vestiaire. Je suis resté 9 ans. Et après, je suis descendu. Je suis venu là. On a supprimé du personnel. Et j'ai remplacé la dame qui était là.
C'est du cinéma politique, ça, Alain Cavalier. De s'intéresser de cette manière-là à un métier.
Oui, c'est surtout le souvenir de ma mère. Parce qu'elle s'asseyait là et elle parlait. Elle racontait sa vie à cette dame pipi. Qui, en même temps, faisait son travail. Et je voulais préciser quelque chose qu'on ne voit pas là à l'oreille. C'est que les voleurs prennent l'argent, les pickpockets, et se débarrassent tout de suite du portefeuille, si par hasard ils étaient pincés. Et il y avait des chasses d'eau en hauteur, vous voyez, ouais. Et puis on tirait dessus, et c'était tout, ils mettaient au-dessus de la chasse d'eau.
Et c'est ce que vous trouvez là avec elle. Hein.
Elle dit, vous voyez, ils mettent là. Oh il y en avait un.
Et là, vous dites, je tiens mon film.
Et là, je tiens la caméra. C'était pas moi à cette époque-là, il y avait un opérateur, pardon. Mm-hmm. Et je me dis, le bonheur, la vie m'offre un bonheur.
Voilà, le bienheureux hasard.
Voilà.
Repasseuse, matelassière, dame pipi, pourquoi aller vers ces métiers-là?
Le travail manuel féminin. Je m'étais mis ça dans la tête. Parce que ma mère n'avait pas travaillé, donc j'adorais les mères de mes copains qui travaillaient. Et puis, un jour, j'étais tombé sur une matelassière qui avait une vitrine exactement cadrée comme un écran. Et je l'ai vue travailler. Et je suis rentré, je lui ai dit, écoutez, j'ai envie de vous filmer. Et voilà. Les gens qui travaillent et qu'on filme, les automatismes du travail font qu'ils ne composent pas, surtout les hommes. Ils sont tout à fait honnêtes et ils vous oublient. Alors que quand ils font des discours, comme je fais, là, on peut composer un peu.
Est-ce qu'ils composent, là, Alain Cavalier, Florence Delay, vous qui le connaissez bien?
Oh, je ne dirais pas que je le connais bien.
On se connaît depuis 30 ans, quand même.
Quand même.
Hein?
Oui, on s'est connus grâce...
Grâce à
Thérèse.
À Maurice Bernard, qui était le producteur de Thérèse, et qui est
le mari de Florence.
Mari de Florence. Et je me souviens d'une projection où Florence est venue voir le film, et il m'a dit des choses extrêmement réconfortantes. J'étais très inquiet de mon travail cinématographique, et grâce à Maurice et à elle, j'ai pris confiance, et ce film a changé un peu ma vie de cinéaste.
1986, Thérèse. On va l'évoquer, ce film, aussi avec Frédéric Boyer, si vous le voulez bien, monsieur l'écrivain et monsieur l'éditeur de chez POL. Juste après avoir écouté l'un de vos chouchous, Florence Delay, vous aviez envie d'entendre Astor Piazzolla.
Thank you. voulais me dire quelque chose?
Non, ma mère. Je voulais vous dire, j'ai fait un rêve. Hein. Vous donniez à chacune de nous un cadeau. Mon tour arrivait, il n'y avait plus rien.
Alors?
J'ai honte. Non, j'ai pas honte, j'ose pas.
Soyez pas négligée, faites les négations. Dites, je n'ai pas honte, je n'ose pas.
Mon tour arrivait, il n'y avait plus rien. Vos mains étaient vides. Vous m'avez souri. Vous m'avez dit, je vous donne mon cœur. Un cadeau pareil, c'est une aubaine. Je veux devenir une sainte, ma mère.
Orgueil.
Oh non. Je veux devenir une grande sainte en cachette. Personne n'en saura rien, sauf lui. Je n'aurai aucun mérite, ma mère.
Ne dites pas ma mère à tout bout de champ. Je refuse de vous considérer comme une enfant. Vous avez une nature forte. Je ne craindrai jamais de vous humilier. Vous êtes la dernière de la maison. Vous êtes la servante de chacune ici. C'est ainsi que vous serez heureuse.
Oh, je vous sens très attentif, Alain Cavalier, Florence Delay, Frédéric Boyer, à l'écoute de cet extrait de Thérèse qu'on vient d'évoquer avec son auteur, Alain Cavalier. C'est un film qui vous marque, ça, Florence Delay?
Ah, moi, j'ai été bouleversée par ce film. Tout est filmé comme, je ne sais pas, avec une sorte de d'évidence, de naturel, de simplicité. C'est enthousiasmant. Et puis alors, je ne sais plus qui a fait les dialogues, je crois que c'est Alain.
Oui.
Oui. Par exemple, vous voyez quand elle dit qu'elle en pince pour Dieu.
Oh, ça doit vous plaire.
Je trouve ça absolument formidable. Oui.
Et puis elle dit aussi très simplement, comme si elle disait, je vais faire mon marché, je voudrais être une sainte.
Voilà, je voudrais être une sainte et en cachette. Bon, la beauté de Thérèse, c'est exactement la beauté inverse de la grande Thérèse d'Avila. J'aime beaucoup les deux Thérèses. Mais elles sont profondément opposées dans la sainteté. C'est très intéressant.
Frédéric Boyer, je crois que quand vous voyez ce film, vous avez à peu près 25 ans.
Ça doit être ça, oui.
Quels souvenirs vous en gardez, vous?
Moi, ça m'a beaucoup touché, effectivement, d'abord. Parce qu'à l'époque, peut-être, c'était des questions qui me traversaient, peut-être.
Vous vouliez être un saint?
Plus que maintenant. Non. La figure de Thérèse dans le film d'Alain Cavalier, pour moi, incarne cette lignée de personnages dans la fiction, dans le cinéma, qui sont des innocents, c'est-à-dire des vrais innocents, c'est-à-dire ceux qui montent au combat. Voilà. Puisque la pointe de l'innocence, c'est d'aller au combat et de être dans une sorte de bravoure face à la négation, face à l'incertitude, face... voilà. Et je crois que Thérèse incarne ça, et la comédienne est bouleversante.
Ouais. Alain Cavalier, dans les années 80, vous demandez à une jeune femme qui a 24 ans, qui est Catherine Mouchet, d'incarner Thérèse. Qu'est-ce que vous avez avec elle comme projet, au départ?
Je n'ai pas de projet, je cherche quelqu'un pour... Et puis un jour, je vais au conservatoire, et Catherine Mouchet était élève, et elle était assise sur le sol. Elle passait devant le public sa scène, et elle récitait la mort de Mouchette, de Bernanos, et elle s'appelait Mouchet. Et c'était absolument déchirant, et je me suis dit, je vais essayer de faire mon film avec elle.
Et en écrivant le scénario, vous vous dites, je veux écrire un film sur l'innocence, pour reprendre le mot qu'employait à l'instant Frédéric Boyer, à propos de Thérèse?
Non, je voulais faire un film avec ce que les carmélites ont comme enseignement premier, c'est de faire le plus avec le moins. J'ai fait un film dans un studio, sans décor, avec simplement un cyclo, et c'était ça qui me plaisait.
Je crois, Alain, que le scénario n'avait pas suscité l'enthousiasme des gens que vous aviez consultés.
Mais c'est très simple, j'étais dans une maison où j'avais fait trois films magnifiques, avec Yves Robert et Daniel Delorme. Je leur dis, j'ai envie de faire Thérèse, ils me disent, bon... Yves, il était athée, tout ça, il dit, fais comme tu veux, etc. Alors j'écris le sujet, et puis je sens qu'ils sont pas très actifs pour le faire. On dit, ils n'avaient pas très envie, quoi. Bon, alors, je leur dis, écoutez, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Je vais voir d'abord Marine Kermitz. Alors je peux en parler, parce qu'il a distribué un de mes films, donc j'ai... Et Marine m'a dit, je t'appelle lundi, et j'ai attendu 10 jours, il ne m'a pas rappelé. Alors à ce moment-là, je me suis dit, qui vais-je aller voir? Et j'envoie à Maurice... En fin de semaine, et le lundi, Maurice m'appelle et me dit, on fait le film.
Bonheur.
Et ça, c'est à vie que je garderai une reconnaissance folle pour lui.
Florence Delay, Alain Cavalier, Frédéric Boyer, on vous retrouve dans un instant, juste après Eddie de Préto sur France Inter.
Je colonise ton sein pas à pas, je domine le reste. Tout ça m'appartient en deux deux et en un seul geste. Tu seras le mien, tu verras, je serai ta secte. Je t'érigerai exactement tout comme je le souhaite. Je marquerai ton bout de mes visques suçons, pour pas que tu cours vers d'autres vices cochons. Je tâcherai ta moue et un à un de tes cheveux longs, de mon drapeau rouge et de mes imposants jurons. Tu ne seras que fier quand alors tu joueras les mères, lorsque je t'offrirai soudain tout un tas de joyeux gamins. Tu n'auras qu'à faire à l'heure et surtout bien te taire. Tu auras alors à terme une grande envolée de bons points. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. J'épuiserai ta flamme pour remplir mes mains du nerf de la guerre et comme un grand malin. Moi je jouerai aux dames, moi je ferai conquête, sans trop que je tarde, juste un poil malhonnête. Tu seras sans fringue et bien à ma guise. Je t'habillerai de rien, juste de poigne possessive. Ils le verront bien que la terre est déjà prise. Ils verront mon flingue, oui mieux que ma main mise. Je me chargerai aussi que tu n'aies plus de choix. T'étaleras ainsi tout un tas de lois que tu repasseras sans te commander, car il n'y a que toi qui sais bien les plier. Puis je te caresserai comme pour t'apaiser, t'imposerai des chutes pour pas te révolter, te bloquerai la nuque sans que tu révulses, et je serai doux pute. Je serai fou. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. Quoi, n'as-tu plus besoin de mon torse? Quoi, n'as-tu plus besoin de moi lorsque dans la rue tu seras seul sans escorte? Dis-moi, comment vas-tu faire sans écorce? Quoi, n'as-tu plus besoin de conseils? Quoi, n'as-tu plus besoin de mes règles? Entends mes forts, je t'aime et te surveille. Tu verras comme dehors c'est sans soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil.
Est-ce que vous écoutez de la chanson française contemporaine, Florence Delay?
Pas beaucoup, non.
Non. C'est bien de venir sur France Inter, comme ça, ça vous permet entre autres
absolument,
à la fois de voir vos amis voilà. Et puis d'écouter par exemple Edith de Préto. Frédéric Boyer, vous avez une histoire avec Florence Delay, si je puis me permettre, qui a commencé sur le plan du travail, au-delà de l'amitié, avec la nouvelle traduction de la Bible que vous proposez chez Bayard à partir de 2001. Vous aviez demandé à des auteurs, j'allais dire des auteurs athées, je pense à Cadio par exemple, de traduire certains évangiles, et vous n'aviez pas osé appeler tout de suite une écrivain qui a la foi, qui est Florence Delay. Pour quelle raison?
Alors, cette histoire, elle va me poursuivre jusqu'à la tombe.
Elle est quasi romanesque.
Oui. Effectivement, ce projet de la Bible, il est venu comme tous les grands projets dans l'existence. C'est une sorte de quiproquo. C'est venu sans trop savoir ce qu'on allait faire, jusqu'où on irait et tout ça. Donc, c'était... Donc,
vous aviez envie d'une langue poétique d'aujourd'hui en 2001, hein, sur la Bible.
Ouais, c'est surtout que je voulais que des écrivains contemporains travaillent sur la traduction de la Bible, c'est tout, voilà. Donc j'ai demandé à quelques auteurs proches de moi, et le problème n'était pas qu'ils étaient athées, d'ailleurs je pense pas qu'Olivier Cadio soit très content s'il nous écoute, qu'on lui dise qu'il est athée. Mais j'ai commencé à travailler avec quelques écrivains proches de moi, que je connaissais déjà. Ou que,
des copains voilà, de chez POL, entre autres.
Entre autres, mais pas que.
Il y avait Jacques Roubaud.
Effectivement, il y avait le célèbre Olivier Cadio, il y avait Jacques Roubaud, il y avait Emmanuel Carrère.
Et Jean Echenoz.
Et Jean Echenoz, etc. Et puis, effectivement, un jour, je reçois une lettre de Florence Delay, que je connaissais, mais que je ne la connaissais pas personnellement.
Qu'est-ce qu'elle vous dit dans cette lettre, monsieur virgule?
Voilà, elle dit... C'était, non, c'était un geste à la Florence Delay. Elle dit, eh oh, est-ce qu'il faut vraiment être athée pour traduire la Bible? Donc, je l'ai immédiatement appelé.
J'ai pas dit athée, j'ai dit agnostique.
Agnostique.
C'est ça, être aventureuse, aventurière, Florence Delay. C'est oser, finalement.
Mais oui, j'ai osé.
Et ça a marché, puisque vous avez traduit Jean.
Ça a marché.
Et Michel.
Au commencement était le verbe. Moi, j'avais appris ça à l'école. Mmh. Et vous, vous changez tout et vous dites au commencement, virgule, la parole.
Oui. Parce que le verbe a vieilli. Et puis, en français, le verbe être prend trop de place. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et le verbe être prend tout. Non. L'important, c'est au commencement, la parole. La parole avec Dieu.
Frédéric Boyer, c'est une traductrice d'espagnol importante, Florence Delay. Est-ce que son métier de traductrice lui a été utile, d'après vous, dans sa traduction de la Bible ?
Oh bah sûrement, parce qu'effectivement, parmi tous les écrivains qui ont participé à ce projet, certains étaient déjà traducteurs, pas de l'hébreu ou du grec forcément, mais effectivement de l'anglais, comme Jacques Roubaud par exemple, ou Florence, d'espagnol, d'autres. Cette pratique de la traduction, au cœur même d'ailleurs de leur propre œuvre, de leur propre travail d'écrivain, bien sûr que ça a servi, bien sûr que ça a aidé le travail.
Il faut rappeler aussi que nous Dieu soit loué, c'est le cas de le dire, nous ne sommes pas seuls. Chaque livre est traduit par un couple, un binôme, l'exégète, celui qui sait, qui connaît, et l'écrivain qui est d'une certaine façon un peu l'idiot, c'est-à-dire qui ne connaît pas la langue.
C'est-à-dire qui adapte d'une certaine manière la traduction.
Et pour nous, je parle autant là au nom de Roubaud, Echenoz, des autres, la rencontre avec ces hommes éminents, ces exégètes, a été capitale. Et quelquefois il y avait des bagarres d'ailleurs.
Vous êtes battu, vous ?
Ah, pour supprimer le verbe être.
Elle résistait pas mal. Oui,
elle
résistait pas mal.
Mais elle était très convaincante. Mais non, ce qui était très beau, c'était cette discussion qui s'est allée sur plusieurs années entre des auteurs, des écrivains, des spécialistes des langues et des textes. Et le travail a contaminé les uns et les autres.
Enfin, oui, et puis c'est une somme poétique, Florence Delay, très importante, cette traduction de la Bible. Hein. Elle est marquante dans l'histoire presque de la littérature, j'allais dire.
Alors, si vous voulez bien, je retirerai le mot poétique.
Pourquoi ?
Parce que il y a des tas de livres de la Bible qui n'ont rien de la poésie, qui sont d'un ennui pétrifiant. Il y a, par exemple, des livres en prose extraordinaires. Et d'ailleurs, les traductions, Frédéric Deschenaux, c'est Samuel.
Oui, voilà, les livres de Samuel.
Livres de Samuel.
Les livres des rois, je crois.
Bon, les livres des rois qu'il a traduit dans sa prose si particulière. Et donc, je veux dire, il y a des livres poèmes, il y a des livres prose. Il y a des livres grimoires, et c'est là que nous avons eu la preuve que la Bible est un singulier aberrant. C'est ta Biblia, ce sont les livres dans une diversité immense. Et penser que pendant des siècles, c'était une seule personne qui traduisait tout, mais c'était impossible, parce que la voix change. La voix de Jérémie n'est pas du tout celle de Job. On entend les voix. Et je pense que c'est ça qui était passionnant à faire entendre la différence de toutes ces voix.
Alain Cavalier, quand vous écrivez le scénario de Thérèse, est-ce que vous lisez la Bible ? Est-ce que vous avez besoin de textes religieux, d'évangiles ? Comment vous travaillez ce matériau ?
Alors, les évangiles, pour moi, c'est des écrits parfaits. C'est-à-dire, il y a le sujet, le verbe, le complément, il n'y a pas d'adjectif. Il y a des choses de reportage, il y a des fables. Il y a des folies, mais toujours avec un récit extrêmement simple.
Vous avez un texte,
j'ai un texte
avec
là,
vous sous les yeux, là.
Simplement pour rendre hommage au style de Florence.
Extrait de son dernier livre ?
Oui.
Haute couture, chez Gallimard.
Alors, c'est une jeune chrétienne, à l'époque de l'Empire romain encore, qui est poursuivie parce qu'elle est chrétienne, par un homme, une espèce de policier, de juge, de méchant, qui la désire. Et elle lui avait demandé pourquoi il tenait tant à elle, et qu'il avait répondu « à cause de vos yeux ». Qu'alors, elle se les était arrachés avec un petit couteau, et les lui avait apportés à tâtons sur un plat. Dans le tableau de Zurbaran que décrit Florence, elle nous présente ses yeux, je crois qu'il s'agit de Sainte Lucie, sur un plat d'argent avec autant de naturel que s'il s'agissait de châtaigne. Alors là, on a tout, on a la sainteté. Alors, elle dit à son bourreau, futur bourreau, que elle a un amoureux formidable, qu'il est né d'une femme vierge, qu'il est vierge, qu'il ne la touche pas du tout, qu'ils ont des conversations magnifiques, tous les deux. Et que lui, c'est rien du tout. Lui, c'est misérable, que tard, comme disaient mes copains.
Je précise que Haute Couture naît d'une œuvre d'un grand peintre du siècle d'or. Il y a Velázquez, mais il y a aussi Zurbarán,
oui. Hein,
dont on parle moins, qui est moins connu, qui est un peintre monastique. Et vous vous êtes intéressé aux femmes sur ces tableaux, c'est-à-dire aux saintes, dont on parle moins que les saints. Florence Delay.
Oui, parce que sa représentation des Chartreux, de Saint-François, du Christ en Agnus Dei sont aussi magnifiques qu'elles ont tout de suite drainé l'admiration. Quand il a commencé à être découvert, parce qu'effectivement Velázquez prenait toute la place pendant longtemps, mais parallèlement, il a peint dans des costumes grande beauté, beaucoup de saintes. Et parmi ces saintes, finalement, beaucoup de vierges et martyrs qui, comme Thérèse de Lisieux, en pincent pour Dieu. Et c'est inimaginable, parce qu'elles en pincent. Et elle parle de lui comme d'un fiancé. Et les autorités romaines n'en peuvent plus. Les Olibrius, les consuls, les Romains, d'entendre parler de ce Christ qui est plus grand qu'eux, auquel obéissent le soleil et la lune, voilà. Bref, j'ai pris le prétexte de leur robe pour écrire leur vie, ou l'inverse.
I don't know a lot about you, but you seem to know a lot about me, so I take a little time out. I take a little time out. I'm sorry that I lost my patience. You deserve better, it's true. I need a little time out. I need a little time out from me.
Italienne Courtney Barnett sur France Inter. Vous avez un livre de Frédéric Boyer, un petit livre entre les mains. Florence Delay, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, c'est un tombeau, c'est-à-dire un poème à la mémoire d'un amour, sa femme, Anne Dufaux-Mantel.
Disparue l'été dernier.
De
façon accidentelle.
Enfin, en sauvant de la noyade deux enfants. Et le livre de Frédéric, son tombeau, s'intitule « Peut-être pas immortel ». Et je vais en lire un passage devant ma petite pyramide immortelle.
Offerte par Alain Cavalier.
À présent, oui, tu es cet esprit. Crieur, criez, elle est morte. Certains soirs, vous pourrez la voir à la recherche des choses qui ne sont pas. J'essaie de faire un vœu, moi, qui ne suis qu'humanité, comme le bourdon et la minuscule abeille. Dissoudre les gouffres de l'horreur, faire revenir pour toi les martinets de Rome et les roses et tes miroirs. Oh, à présent, oui, je sais, rien ni personne ne vit longtemps que la terre et le ciel pour quelque temps. Mais tout de même, humanité, demeure là, oh, demeure, je t'en supplie. Tu me disais, deviens le poète que tu es. Le poète est responsable des choses telles qu'elles sont dites, devenues nôtres un court instant, et retourne d'une vrille pour sécher leurs ailes ailleurs. Tu me disais, chaque chose du monde est une petite cérémonie païenne. Deviens son prêtre pour moi, s'il te plaît. Chante le chant pour une personne disparue. Parle de personnes réelles. Ne change rien.
Frédéric Boyer, ce sont vos mots, quelques mois après la disparition de votre compagne, la philosophe Anne Dufour-Mantel. Est-ce qu'il a fallu du temps pour pouvoir écrire sur cette disparition, sur ce deuil et sur son absence dans votre vie?
Écoutez, je ne sais pas. J'ai pas pensé, voilà. C'est venu tout doucement, vers la fin du mois d'août, voilà.
Donc ça a été assez rapide, ce besoin d'écrire.
Oui, c'est quelque chose d'étrange, parce que c'est le besoin de s'adresser à elle, dont on sait que ça sera quand même en vain. Après, c'est quelque chose de... C'est lié au deuil, et c'est aussi une vocation de la littérature, dès l'origine même de la littérature, de parler de l'absence. Que la lettre soit là, oui. À la place de ce qui n'est pas. Voilà.
Florence Delay.
Oui, Frédéric a raison, je pense, puisque tout à l'heure on va retrouver Jacques Roubaud, à la mort de sa femme, un très beau livre qui s'appelait « Quelque chose noir », besoin de témoigner. Je ne sais pas si... Il y a un film d'Alain Cavalier que
Bien sûr.
N'ai jamais vu.
Irène, un film de 2009. Alain Cavalier, vous avez perdu votre femme en 72. Vous avez besoin de temps, plus de 35 ans, pour réussir à dire avec des images ce deuil, cette disparition, cette absence.
Mais moi, j'ai eu la chance formidable de ne pas avoir à aller reconnaître le corps avant qu'il soit enfermé dans la boîte. J'ai eu une vie intense après sa mort avec elle. Et un jour, elle m'a dit, mais écoute, faisons un film ensemble. Hein, faisons un film ensemble.
Vous entendiez sa voix?
J'entendais sa voix. On l'a fait à deux. Et même quand je tournais, je me souviens très bien, un jour j'étais au bord d'une plage, dans une maison, et elle venait de la plage, comme ça, le soir, elle frappait chez moi, et je lui parlais. C'était extraordinaire, même quand je vous en parle, là, j'ai aucun problème. Elle n'a pas vieilli, elle aurait maintenant 4 ans de moins que moi, vous vous rendez compte? Comment serait-elle?
Est-ce qu'elle vous parle encore?
Ben évidemment. Et jusqu'à la fin de ma vie.
Frédéric Boyer, vous avez ce sentiment d'une osmose entre votre aimé disparu et vous, aujourd'hui?
C'est difficile, hein, je suis moins à l'aise qu'Alain Cavalier, et c'est normal.
C'est plus récent, le deuil est plus récent.
Et puis effectivement, c'est beau d'entendre les vivants parler comme ça des morts, voilà, c'est beau. Et moi, je reste voilà, un peu dans le deuil, là. Je suis un peu encore dans une espèce de noyau de révolte du chagrin, quand même.
Oui, mais vous produisez, vous avez sorti un livre.
Bah parce que, oui, il faut, voilà, c'est utile aussi. Il faut après se réinscrire dans la vie, quoi, dans le muscle de l'existence, comme ça, donc il faut continuer.
Continuer, et vous continuez aussi, après le deuil de votre éditeur et de votre ami, Paul Otchakowski-Laurence, disparu en janvier dernier, vous avez repris sa succession, vous êtes à présent vous occupez la fonction qu'il occupait, il était éditeur, c'était le patron de chez POL, et c'est vous aujourd'hui le patron. Vous n'avez pas hésité, visiblement, à prendre ce poste. Qu'est-ce qui, je vais prendre un terme peut-être chrétien, qu'est-ce qui vous a appelé?
Bah, d'abord, c'est lui qui m'a appelé, mais pas quand il était bien vivant. Il y a une dizaine d'années, il me pose brutalement cette question. Il me dit si je devais disparaître, si je devais être dans l'incapacité de continuer à m'occuper de cette maison, est-ce que vous accepteriez de la reprendre ? Bon, je m'y attendais pas du tout. Et dans ces cas-là, comme c'était un ami, quelqu'un que j'aimais beaucoup, et que c'était évidemment pour le rassurer, on lui dit bah oui, bien sûr, ne t'inquiète pas, voilà. Et puis on en reparlait de temps en temps, mais très peu, plutôt sous le mode du rire d'ailleurs, parce que Paul me regardait et me disait « Ne vous inquiétez pas, vous avez encore du temps pour m'emplacer. » Puis voilà, puis le 2 décembre, le 2 janvier pardon, dans la nuit, j'ai appris qu'il avait disparu. Et donc, j'ai décidé que je ne pouvais pas faire autrement que ne pas y aller. Quoi.
Et être éditeur de chez POL, aujourd'hui, ça veut dire quoi pour vous, Frédéric Boyer? Qu'est-ce que vous allez mener comme manière de regarder, de lire et d'éditer les autres?
Non, mais vous savez, là, dans l'immédiat, moi, je veux pas faire le malin. L'important, c'est que cette maison poursuive, que cette maison tienne le coup. C'est une grande maison d'édition, même si elle est petite par la taille, qui publie des auteurs et des œuvres importantes. Pour moi, je suis là pour que les choses puissent tenir le coup encore, voilà, et se développent. Après, on verra. C'est la vie fera en sorte que les choses probablement évolueront, mais là, pour l'instant, moi, je suis en position pour dire aux auteurs, pour dire aux lecteurs de ces auteurs et de ces œuvres que tout va bien, que ça va se poursuivre et que les gens pourront travailler, écrire, publier et que les gens pourront lire les livres. Voilà, c'est ça qui est important.
Financièrement, ça va, POL ?
Financièrement, ça va. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Paul qu'on a vue dans tous les journaux. Hein, il dit l'édition est une activité économique aberrante. Et ben, ça reste vrai. C'est une activité économique aberrante. Et Paul avait un grand génie qui plairait à Florence. C'est-à-dire qu'il arrivait à retourner les situations au dernier moment de façon très douce, sans faire le fanfaron. Et hop, il avait un prix Goncourt, un prix Médicis. Et au dernier moment, et parfois au bord du gouffre, hein, ça a été... Eh bien, je sais que ça continuera comme ça. Alors, ça ne peut pas être autrement. Voilà, l'édition à ce niveau-là, voilà, c'est aussi une activité artistique. Voilà, et on doit respecter cette la liberté de créer, d'écrire, de traduire, pourquoi pas. Et ça ne doit pas répondre toujours et tout le temps, et d'abord à des critères économiques. Voilà, il faut que l'économie vienne un peu à notre secours à un moment donné, mais on peut aussi être un peu plus prendre de la hauteur par rapport à l'économie. Ça ferait du bien à pas mal de gens aujourd'hui, d'ailleurs.
Oh, ça parle à Alain Cavalier comme discours. Est-ce qu'on va voir un nouveau film de Cavalier bientôt ?
Peut-être, oui, j'espère.
Quand ?
Dans l'année prochaine, au printemps prochain.
Bon, mais on a hâte de voir le prochain Cavalier. Merci d'être venu accompagner Florence Delay, Alain Cavalier.
C'est un plaisir.
Et je remercie Frédéric Boyer, à qui je souhaite une bonne chance et plein d'énergie et d'enthousiasme. C'est un mot que vous attribuez à Florence Delay. Écrivain de l'enthousiasme, avez-vous écrit un jour dans un journal à propos de Florence Delay? On vous souhaite tout cet enthousiasme, Frédéric Boyer. Je précise et rappelle le titre de votre livre chez POL, Peut-être pas immortel. Vous restez avec nous, Florence Delay, Natacha Michel, Jacques Roubaud et d'une certaine manière Chris Marker nous attendent.
D'une certaine façon, je suis inconstante et fidèle. J'ai vraiment du mal à ne plus aimer qui j'ai aimé. Et je pense aussi qu'on peut... Il y a un très beau titre de Borges, La route au sentier qui bifurque. Où... Il me semble que ma route a été au sentier qui bifurque.
Deuxième heure en compagnie de Florence Delay, romancière, essayiste, dramaturge, actrice, agrégée d'espagnol, traductrice, ex-enseignante, critique de théâtre, souffleuse, faut que je respire, assistante régisseur, scénariste, sont avec nous deux amis de Florence Delay, l'écrivain Natacha Michel et le poète Jacques Roubaud. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Il y a de la brioche, servez-vous, hein, n'hésitez pas.
Je n'y manquerai pas.
Et nous allons évoquer aussi, Florence Delay, la mémoire du cinéaste Chris Marker qui fait l'objet d'une exposition à la Cinémathèque française. Je vous propose d'écouter Barbara Carlotti, Voir les étoiles tomber.
J'avance sans peur dans la dead zone de toute la peur tenir aux choses. À marcher seul sur le volcan. Le feu déclenche parfois le vent. Le doute est un collier d'épines. Je reste pour percer l'énigme. L'énergie sismique qui nous guide déclenche parfois
Vous avez souhaité, Florence Delay, que nous allions à la Cinémathèque française découvrir l'exposition Chris Marker. Chris Marker est mort en 2012. C'était un cinéaste français qui a beaucoup tourné, beaucoup voyagé, beaucoup raconté le monde en images. De Chris Marker, vous avez vu peut-être La Jetée, une fiction racontée de manière originale par un diaporama de photos en noir et blanc et un commentaire en voix off. Il y a aussi Le Fond de l'air est rouge, Le Jolimet, c'est le cinéma d'un auteur, d'un cinéaste amoureux de la littérature, amoureux des femmes dont il cadrait souvent le visage. Un homme qui, comme Pessoa, se cachait sous divers pseudonymes et se montrait le moins possible. Direction la Cinémathèque. Florence Delay, on se trouve devant la Cinémathèque française. C'est le début de l'exposition Chris Marker. Pour beaucoup d'auditeurs, c'est un nom, Chris Marker, mais on a peut-être du mal à l'associer à une fonction. Vous diriez quoi de Chris Marker? Il était quoi?
Ce qui m'a frappé depuis le début, c'est qu'il s'approche du réel, de l'image, des vies des gens, toujours en écrivain. Et que finalement, si on peut choisir un dénominateur commun à toute son œuvre d'une diversité stupéfiante, ce dénominateur serait qu'il mettait la langue et l'écriture toujours au service des images.
On a devant nous un spécialiste des images qui fait partie des commissaires de l'exposition Chris Marker. Jean-Michel Frodon, bonjour.
Bonjour.
Florence Delay a souhaité votre présence ici.
Oui, certes, parce que cette exposition est passionnante parce que c'est un voyage. De salle en salle, on traverse le monde, comme Chris. Et on a un sentiment d'élargissement, de perception du monde qui était la sienne et dont je souhaiterais qu'elle soit la nôtre.
Historien, explorateur des techniques, archiviste, compositeur, écrivain, cinéaste, amateur d'art.
On a donc la voix de Florence Delay qui nous accueille et qui tente une définition de cet homme si multiple. Alors vous mêlez le son, les images, on est entouré, on est envahi d'images au fond.
On est envahi d'images et de la multiplicité des images que Chris Marker a conçues et fait exister, c'est-à-dire la photographie, le cinéma dans toutes ses dimensions, les images informatiques, les images sur ordinateur, les images sur Internet, puisque parmi ses innombrables talents et cordes à son arc, il y avait aussi l'exploration des technologies, et c'est quelqu'un qui a en permanence explorer des nouvelles manières de partager cette relation dont a parlé Florence entre les images et les mots.
Ce qui est étrange dans ma propre histoire, c'est que Marker, je l'ai découvert par un livre sur un écrivain que je découvrais en même temps, qui est Jean Giraudoux. Et pendant quelques années, Chris Marker était l'homme qui avait le mieux parlé de Jean Giraudoux. Bon, et ensuite, j'ai découvert le véritable.
Mais vous le rencontrez quand ?
Je le rencontre dans les années, deuxième moitié des années 60, au moment où Régis Debray est prisonnier à Camiri et que se crée un comité de défense. C'est à ce moment-là que mon amie Natacha Michel va me présenter Chris Marker.
Avec qui vous allez travailler ?
J'ai du mal à penser que j'ai travaillé.
Vous apparaissez dans deux films.
Ah oui, alors il y a ce très étrange court-métrage qui s'appelle L'Ambassade, mais je pense que j'ai un plan dans L'Ambassade. L'autre, temps plus long passé avec lui, et le texte écrit pour Sans Soleil, qui cette fois est un long métrage. Sans Soleil, c'est 1982, c'est ça.
C'est un film essai, qu'est-ce que ça veut dire Jean-Michel Frodon ? C'est quoi Sans Soleil ?
C'est un film qui vient après son grand film de la fin des années 70, Le fond de l'air est rouge, qui est un film qui tirait le bilan des engagements révolutionnaires des 15 années précédentes. C'est un film qui compose une méditation poétique sur un certain état du monde, dans sa cruauté mais aussi dans ses beautés. Toute la bande-son est composée de lettres qu'écrirait un homme qui s'appelle dans le film Sandor Krasna, qui est un des nombreux pseudonymes de Marker et que lit Florence Delay.
Mon problème personnel était plus circonscrit. Comment filmer les dames de Bissau ? C'est sur les marchés de Bissau et du Cap-Vert que j'ai retrouvé l'égalité du regard et cette suite de figures si proche du rituel de la séduction. Je la vois, elle m'a vue, elle sait que je la vois. Elle m'offre son regard, mais juste à l'angle où il est encore possible de faire comme s'il ne s'adressait pas à moi. Et pour finir, le vrai regard, tout droit, qui a duré 1/25 de seconde, le temps d'une image.
On trouve plein de traces de films et d'admiration de cinéaste. Il est aussi très cinéphile, Marker.
Tout à fait. Il a réalisé au moins 4 films consacré à un grand cinéaste, 2 à Alexandre Medvedkin, Le train en marche et Le tombeau d'Alexandre, 1 à Andrei Tarkovsky et 1 à Akira Kurosawa sur le tournage de Ran. Et là, on entend derrière nous le son de La Jetée. La Jetée est fait explicitement en référence à Vertigo d'Alfred Hitchcock et cité dans La Jetée.
Alors là, on voit un plan de La Jetée, on remarque le chignon d'Hélène Châtelain. Ce n'est pas exactement celui de Vertigo, mais...
Une fille qui pourrait être celle qu'il cherche. Il la croise sur La Jetée. D'une voiture, il la voit sourire. D'autres images se présentent, se mêlent, dans un musée qui peut être celui de sa mémoire.
Et ce qui est tout à fait extraordinaire avec Marker, c'est que ce film... qui va devenir une référence, ce qu'on appelle un film culte, il le fait au milieu de la réalisation d'un autre film, Le Joli Mai, et Le Joli Mai est du documentaire au sens le plus littéral du terme, et La Jetée est ce qui est le plus de la fiction chez lui, tout ça la même année 1962, puisque le mois de mai du Joli Mai, c'est mai 62, au lendemain des accords d'Évian et de la fin de la guerre d'Algérie, et c'est une enquête sur comment les Parisiens voient leur vie, quand la paix vient d'être signée.
Avec une voix off de Montand.
Alors avec la voix off de Montand et ponctuellement la voix off de Chris Marker récitant la prière sur la tour Eiffel de Giraudoux.
Le 1er mai 1923, Jean Giraudoux montait sur la tour Eiffel et écrivait.
Ainsi j'ai sous les yeux les 5000 hectares du monde où il a été le plus pensé, le plus parlé, le plus écrit. Le carrefour de la planète qui a été le plus libre, le plus élégant, le moins hypocrite. Cet air léger, ce vide au-dessous de moi, ce sont les stratifications qu'ont bien accumulées de l'esprit, du raisonnement, du goût. Tous les accidents du travail sont ici des accidents de la pensée. Il y a plus de chance qu'ailleurs pour que les dos courbés, les rides de ces bourgeois, de ces artisans, aient été gagnés à la lecture, à l'impression, à la reliure de Descartes et de Pascal.
Alors là, ce sont des montages de lui que je trouve extraordinaires. Il y a une représentation du président Mao. Et la légende, c'est un pull rodier, ça vous change un homme. Et puis, il y a aussi une photographie de CRS. Et puis la légende, si demain la langue française était une langue morte, nous serions tous des assassins.
Beau ça. Oui. Ça touche l'académicienne.
Oui. Enfin, ça touche l'amoureuse de la langue.
Il était lui-même poète au sens littéral du terme. Il a écrit dans sa jeunesse un nombre assez important de poèmes. On en expose un dans l'exposition.
Avec un pseudonyme déjà,
Marc Dornier, qui est son premier pseudonyme, qui est déjà son pseudonyme quand il est au lycée et où il écrit dans le journal du lycée. Au lycée, il a comme professeur de philo Jean-Paul Sartre, ça peut aider aussi, et comme ami celle qui s'appellera plus tard Simone Signoret. Et il écrit notamment un texte absolument magnifique sur Jean Cocteau et sur le théâtre de Cocteau dans le journal du lycée quand il est en terminale, sous le pseudonyme de Marc Dornier, qui sera son nom jusqu'à la fin de la guerre, son nom de plume jusqu'à la fin de la guerre.
En sachant que Chris Marker n'est pas son nom non plus. Hein.
Non, Chris Marker n'est pas son nom, il s'appelle Christian Bouche-Villeneuve et il va utiliser un très grand nombre de pseudonymes.
D'ailleurs, j'ai commencé mon texte sur lui dans le catalogue par cela même, à savoir... Il était une fois, en France, au XXe siècle, un homme qui ne voulait pas apparaître. Je pense que c'est la chose la plus frappante de sa position.
Joli, mais c'était tous les jours fête. Il était né coiffé de muguet. Sur son cœur, il portait la rosette, la légion du bonheur, joli, mais... Sur son cœur il portait la rosette, la légion du bonheur, joli mais. On l'a gardé le temps de le croire, il est parti pendant qu'on dormait, emportant la clé de notre histoire, joli mais ne reviendra jamais. Emportant la clé de notre histoire, joli mais ne reviendra jamais. Joli mais notre amour était bref, l'été vient qui mûrit le regret, le soleil met du plomb dans les rêves. Sur la lune on affiche complet, le soleil met du plomb dans les rêves, sur la lune on affiche complet. Joli mais tu as laissé tes songes dans Paris pour les enraciner, ton foulard sur les yeux des mensonges et ton rouge dans la gorge de l'année. Ton foulard sur les yeux des mensonges et ton rouge dans la gorge de l'année.
Le Grand Atelier sur France Inter.
La chanson Le Joli Mai, interprétée par Yves Montand, est une réinterprétation d'une chanson populaire russe par le compositeur Michel Legrand. Chanson nostalgique qui vous plaît, Florence Delay?
Oui, c'est une très belle chanson. Mais c'est incroyable ce que la voix peut faire surgir. Je n'ai pas eu une émotion aussi grande dans toute l'exposition de Chris Marker qu'en écoutant à l'instant sa voix, lisant la prière sur la tour Eiffel.
Voix dont on dispose et très peu, parce qu'il était tellement discret
très peu.
Qu'il a très peu enregistré.
Et là, Natacha et moi avons croisé le regard, puisque c'était à la fois l'écrivain que nous avions découvert le premier, et ensuite cette voix qui nous était chère, qui le lisait. Donc ça redoublait... Je crois l'émotion.
Je précise que Natacha Michel est une amie d'enfance. On va parler de l'amitié et de votre amitié, Natacha Michel et Florence Delay, dans un instant. Natacha Michel, c'était votre parrain, Chris Marker?
En quelque sorte. Mon père, André Michel, était cinéaste et il avait rencontré un trio de jeunes gens auxquels il s'était lié au festival de Wannsee ou quelque chose comme ça en Allemagne. Et c'était Alain René, Chris Marker et Raymond Forlani, qui est devenu d'ailleurs son assistant. Et Chris fréquentait chez mon père, et je l'ai connu, et c'est lui qui m'a donné mon nom. À savoir, je m'appelle Nathalie, et il a trouvé que c'était pas bien, et il a dit que c'était Natacha. Et à partir de ce moment-là, il a été un éducateur amoureux, si j'ose dire. Il me traînait absolument partout, et j'ai vu le monde à travers lui, et mon premier livre est largement inspiré par ses promenades. Il s'appelait... comment il s'appelait, mon premier livre ?
Ici commence.
Merci. Non, je voulais juste raconter... J'étais impossible, je lui ai fait endurer des choses épouvantables, en particulier, justement dans le Joli Mai. Parce qu'il voulait à tout prix que j'y figure, puisque, et j'ai sans doute, dans la mesure où mon père était metteur en scène, fait, si j'ose dire, mon Œdipe contre le cinéma. Je voulais tout, sauf actrice, pour jamais. Et donc, Chris, par contre, en cinéma muet, si j'ose dire, dans Joli Mai, il ne voulait pas me faire parler, il voulait me filmer. Or, il me filme dans deux situations. Un, nous aimions, lui et moi, beaucoup les animaux. Il me lâche dans le zoo de Vincennes. Et il filme beaucoup de pellicules. Et ensuite, il me met sur la tour Eiffel. Et c'est à cause de ça qu'il va lire. Et il essaye de me faire lire la première. Bon, j'étais tellement agitée, tellement mauvaise, tellement incapable qu'il a été obligé de tout couper. Et il m'en a voulu à mort. J'ai pris des claques.
Ah oui.
Il me traitait comme son enfant en même temps. Il m'envoyait au coin, quoi.
C'est toi qui aurais dû lire la prière sur la tour
Mais
Eiffel.
Mais oui, il avait essayé de me la faire.
Alors, heureusement que tu l'as pas lu, j'aurais été trop jalouse. Mais ça n'était pas possible.
Ah oui, d'abord, c'était vous,
il y a sa voix. Et deuxièmement, tu sais que je lis comme un cochon. C'est
non,
toujours.
J'ai pas dit.
C'est Florence qui lit pour moi.
Florence Delay aime énormément lire, oui. C'est vrai, non ?
Dieu merci.
Dès qu'il y a une occasion, vous aimez ça, prêtez votre voix.
Et oui, on ne se sert pas suffisamment de moi.
Je crois que je l'exploite assez de ce point de vue-là.
C'est vrai, de quelle manière ?
Eh bien, par exemple, mon avant-dernier livre dont j'ai oublié le titre.
Vous oubliez vos livres, vous ?
Oui, je les oublie complètement. Sinon, je n'écrirais pas d'autres. Nous avons été faire une tournée en province et c'est Florence qui lisait. Et je parlais un peu, mais elle lisait.
Formidable, ça.
Oui, oui, oui.
Je suis son lecteur.
Vous êtes sa lectrice et surtout son lecteur. Vous dites son lecteur, comme vous dites, je suis écrivain et pas écrivaine, oui, Florence Delay.
Écrivain, vaine, sans trop vanité, des vanités.
Vous aussi, vous dites écrivain, Natacha Michel ?
Ah, mais bien sûr. C'est même, je crains, moi, qu'il ait imposé. En tout cas, je l'ai imposé dans une chose que j'ai fait avec Philippe Beck, qui est un poète intéressant, où les gens qui étaient en face voulaient absolument me traiter d'écrivaine. Et j'ai dit, écoutez, non, c'est un nom masculin et féminin, écrivain.
Donc non à la féminisation des mots, madame l'académicienne. Qu'est-ce qu'on féminise ou pas ?
Écoutez, on féminise ce qui va de soi dans la langue.
Oui, c'est ça.
Instituteur, institutrice.
Oui.
Aviateur, aviatrice.
Oui, mais ça, on pouvait dire ça autrefois, mais aujourd'hui...
Eh bien, on le dit toujours, et puis voilà, parce qu'il faut accepter le neutre des fonctions.
On va vous dire que vous êtes conservatrice.
Pour la langue, je supporterai même ça.
Jacques Roubaud, vous pouvez pas entendre ça. Être conservateur quand on écrit, ça n'est pas le propre du poète que vous êtes.
Ah bon ? Je sais pas.
Écoutez,
je pense que cette manière de faire, dire écrivaine au lieu d'écrivain, par exemple, et d'autres exemples de ce genre, c'est ce que j'appelle la maladie québécoise. Parce que c'est venu du Québec, étant un peu pénétré par la langue anglaise. Ils ont pensé que pour les Anglais, et dans le monde anglo-saxon, ça a été souvent comme ça, pour simplifier, si ça se terminait par un E muet, c'est féminin, sinon c'est masculin. Donc, très simple de généraliser ça. Dans ces conditions, moi je veux bien qu'on dise écrivaine, mais alors moi je suis un poète.
On t'adore.
Natacha Michel, vous êtes née la même année que Florence
oui.
Delay. Vous la rencontrez quand ?
Au lycée et sur 1000 projets, dont celui d'écrire.
Donc vous avez quoi, 15 ans quand vous faites votre
oui.
connaissance ?
Oui, à peu près.
2 secondes.
Vous vous souvenez de la première fois, de vos premiers mots, de votre échange, d'une complicité ?
Oh, c'était absolument magnifique parce que, en vérité, l'échange était réel au sens où on s'écrivait des mots à travers la classe. On ne pouvait pas se parler. En plus, le prof, Mademoiselle Planex, nous avait séparés parce qu'on troublait le cours des choses. Et donc, on passait notre temps à s'écrire. C'était nos premières armes littéraires.
Mais sur quoi ?
Surtout, est-ce que tu as lu tel bouquin ?
Et même, quand on n'avait pas de papier, parfois, c'est arrivé. tu as écrit sur mon Borges.
Oui.
Sur mon exemplaire de La Croix du Sud de fiction, j'ai une lettre de toi, écrite en classe.
Tu en as de la chance.
Ça vaut très cher.
J'espère que ça vaudra très cher. Mais pour l'instant, c'était un reproche sanglant.
Qu'est-ce qui vous réunissait, d'après vous, aujourd'hui? Est-ce que c'était cet amour de la littérature?
C'était aussi l'amour l'une de l'autre.
Évident, immédiat.
Oui.
Vous nous avez dit en préparant l'émission, Florence Delay, avec Natacha Michel, on a eu parfois des différends, mais l'amitié a toujours été là, comme une base solide.
Oui, il y a un coup de foudre de l'amitié, ça c'est sûr.
Mais si vous voulez, je pense que, ça c'est peut-être le sale prof de philo qui parle, mais l'amitié c'est la philia en grec. La philia, c'est la même racine que l'amour, philaine. Mais en vérité, la philia veut dire deux choses. Aimer, elle veut dire amitié, fondamentalement. Et l'amitié, c'est l'hospitalité. C'est-à-dire le fait de recevoir l'autre comme s'il était vous-même, alors qu'il est absolument autre. Et je crois que notre relation, c'est traiter comme sien ce qui ne l'est pas. Ce qu'il y a entre Florence et moi, entre autres, c'est la philia. À savoir, nous sommes différentes sur plein de plans. Il nous est arrivé de nous engueuler fortement.
Sur des questions politiques?
Non, Florence, écoutez, je suis une gauchiste éternelle.
Vous étiez très engagée dans les années 70.
J'ai été très engagée, j'ai créé une organisation politique, j'étais à la gauche prolétarienne, je continue à faire un certain nombre de choses. Et justement, je voudrais créer quelque chose qui fasse qu'on aide les migrants. Et Florence était à jamais objecté à quoi que ce soit sur ce plan.
Alors que vous ne partagiez pas ces idées-là, Florence.
Monsieur Delay.
Si.
Elle n'est pas réactionnaire.
Politiquement, dans les années 70, elle n'est pas réactionnaire, dit Natacha Michel, son amie.
Absolument
oui,
pas.
Non, je suis pas.
Guerre d'Espagne, enfin, elle est non, entièrement formée par la guerre d'Espagne.
De toute façon, Natacha m'a beaucoup, beaucoup parlé de tout ce qu'elle faisait. Je l'attendais, etc. Et ça me passionnait. Mais je ne me sentais pas dans la disposition de m'engager. C'est étrange, je crois que... Mais Dieu sait que j'ai écouté.
Oui, puis t'as payé aussi, je sais pas quoi. Elle m'a couverte sur... Bon, peu importe. Et ça lui a coûté, je sais pas quoi, les palmes académiques ou un autre truc.
Non, une visite de commissaire, ma chérie.
Ben, les flics, on les voyait tous les jours.
Non, et puis...
Mais qu'est-ce que vous aviez fait, Natacha Michel?
Des choses terribles.
Racontez.
Mais j'en sais foutre rien. On était au bidonville des Framboisins. On avait organisé une manifestation, mais on avait la police malgré tout. Elle fait son travail, donc disons la police parallèle, celle qui suivait les militants. À un certain moment, ils ont eu très peur. On n'était absolument pas des terroristes, et le terrorisme n'était pas du tout à la mode dans la politique. C'était la lutte armée, si vous voulez. Et on était très loin de la lutte armée, et personne, aucun d'entre nous n'a jamais pensé à la lutte armée. On était écoutés au téléphone, on était suivis dans la rue, etc., etc.
Et vous aviez une amie qui disait, mais non, Natacha était chez moi cette nuit, elle n'était pas du tout en train de courir les rues. C'était Florence Delay, c'est à peu près ça?
À peu près, c'est une parabole de l'histoire, mais c'est à peu près ça. Elle ne m'a jamais lâchée, Flo. Et si vous voulez, on n'a jamais pris l'inspiration l'une de l'autre, mais on a pris l'une de l'autre l'ordre d'écrire. C'est-à-dire, vas-y, voilà, ma vieille.
C'est là où j'interviens, parce qu'il se trouve que il y a eu quelques années où nous ne nous sommes pas vus, 2 ou 3 ans, après le lycée. Puis on s'est retrouvés dans la rue. Et nous avions fait tout ce qu'on avait dit qu'on ferait. Elle était agrégée de philo, j'étais agrégée d'espagnol, elle faisait de la politique, je faisais du théâtre. On avait fait exactement tout ce qu'on avait dit qu'on ferait, sauf une chose. Nous n'avions pas écrit. Et c'est à ce moment-là que nous avons pris la décision de passer 2 ou 3 demi-journées selon notre travail.
Vous étiez enseignante toutes les deux à ce moment-là?
Oui. Et de travailler l'une chez l'autre. Et c'est comme ça que nous avons écrit nos 2 premiers livres, puis les 2 suivants, puis les 2 suivants.
Au nom d'une promesse de jeunesse.
Parfaitement.
C'était une passion, oui. Et puis c'était le projet. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?
C'est vrai qu'à 15 ans, au café Jean Bar,
oui, c'est ça.
À
comment
Paris,
savez-vous ça?
Florence Delay et Natacha Michel se disent... Nous serons écrivains.
Oui, mais vous savez, je pense que ça arrive dans les...
Et tu sais, il n'existe plus.
Oui, mais tant pis.
Tant pis.
On mettra une plaque, toi. Mais l'amitié est créatrice au sens, dans tous les sens du terme. Moi, je crois que c'est la grande éducation, l'amitié.
Oui, parce que c'est ça qui était très important. Nos séances de travail, qui duraient 3-4 heures, bon, à la fin, on se lisait l'une à l'autre, ce qu'on avait fait. Et la critique de l'autre était impitoyable.
C'est toujours le cas aujourd'hui ?
Pas à haute voix,
non.
Mais si, on se
non,
lit.
Non, on se lit, bien sûr, chacune a le
mais vous ne vous critiquez plus ?
Ah si, si, si.
Ah. Mais écoute, à la page temps,
les séances ne sont plus...
Tu me coupes ça ?
Absolument, page 26, non, cette métaphore n'est pas possible. Après, j'ai compris, mais au début, j'étais très maladroite avec ça, tu te rappelles ?
Il y a un homme qui vous écoute avec beaucoup d'attention et des petits yeux ronds, c'est Jacques Roubaud, notre poète. Oui. Jacques Roubaud, comment vous observez cette relation si belle, si fusionnelle, cette relation amicale entre Florence Delay et Natacha Michel ?
Je l'admire.
On l'envie un peu.
Ah bah bien sûr, c'est extrêmement frappant et assez admirable.
Vous avez souhaité écouter dans votre grand atelier sur France Inter, Florence Delay, Miles Davis, pourquoi ?
D'abord, j'aime beaucoup tous les instruments à vent et sa trompette est une des plus belles trompettes qui soit. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ces Sketches of Spain parce que, avec une espèce d'incroyable don d'assimilation, il transpose quelque chose de profondément espagnol qui passe sur sa trompette et donne de tout autres horizons.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Vous aviez envie de réagir à cette musique de Miles Davis, Florence Delay.
Oui, parce que j'entends dedans une interprétation d'une chanson populaire qu'utilise aussi Manuel de Falla dans L'Amour Sorcier, que transcrit Federico Garcia Lorca lorsqu'il parcourt l'Andalousie sur l'ordre de son maître Manuel de Falla pour retrouver toutes les paroles et les rythmes du canté rondo et du chant populaire, et que finalement, la trompette de Miles Davis vient conserver en recréant. Et c'est là où je me sens très conservateur.
Jacques Roubaud est aussi avec nous, avec Natacha Michel et vous, Florence Delay. Vous souhaitiez la présence du poète, j'allais dire, pour quelle raison ? Est-ce que vous aviez envie de l'entendre parler de quelque chose de précis dans votre grand atelier ?
Bon, l'œuvre de Jacques Roubaud a beaucoup compté pour moi, et puis l'homme, les deux. J'aime beaucoup quand ça se croise. Ça s'est croisé dans ma vie avec Natacha, ça s'est croisé dans ma vie avec Jacques Roubaud. Voilà, j'aime beaucoup l'entendre dire des poèmes. Alors, j'aime aussi parce qu'il a écrit pour nous tous, mais aussi pour les enfants. Et assister à la rencontre dans une classe entre les enfants et Jacques, c'est vraiment un des bonheurs de la vie.
Ça ressemble à quoi ?
Ça ressemble à un jeu, une excitation régnante chez les jeunes personnes, chez les petites personnes, comme disait Schwab, et Jacques devenant une petite personne. Quand il écrit pour les enfants, comment dire, il ne faiblit pas. Je veux dire, il prend très très gravement les choses, à la Lewis Carroll, si vous voulez.
Mmh. Alice, vous avez envie de nous lire un poème, Jacques Roubaud ? Nous, on aimerait bien.
Oui, j'ai choisi de lire un poème qui fait partie d'un livre de poésie pour enfants qui s'appelle « Les animaux de personne ». Chacun de ces poèmes a été adressé à quelqu'un. Alors, il est assez normal que je choisisse de lire celui que j'ai offert à Florence. Ça s'appelle « Le lièvre variable ». Le lièvre dort les yeux ouverts. En faisant claquer ses mâchoires, ça lui fait trembler les oreilles et sans arrêt, il se réveille. Au printemps, le lièvre est gris. Souvent, le lièvre varie. Le lièvre mange des trèfles, des saules nains, des violettes et de l'écorce de daphné qui lui chatouille le nez. En été, le lièvre est roux. Le lièvre change beaucoup. Le lièvre part en promenade en sautillant dans les salades. Il suit les charrettes de foin, glanant des épis, mais de loin. En automne, le lièvre est brun. Il a encore changé de teint. Le lièvre a fui les chasseurs dans le terrier de la marmotte. Choisir celui du renard eût été une grave faute. En hiver, le lièvre est blanc. Le lièvre varie tout le temps.
Comment avez-vous reçu ce poème, Florence Delay ?
Je suis très fière. Je suis très fière parce que je vais l'apprendre par cœur, par narcissisme peut-être. Et puis alors, vous voyez le jeu avec la rime, faute. J'aime beaucoup ça. Et ça, c'est la grande tradition des gens que tu admires.
Qui, par exemple ?
En ce moment, c'est Charles Cros.
Oui, entre autres, oui, entre autres. Et c'est-à-dire, je relis Charles Cros pour essayer de remettre dans ma mémoire des poèmes de lui que j'ai connus et que j'ai oubliés.
Il paraît qu'adolescent, vous connaissiez des centaines de poèmes.
Oui, j'en apprenais et j'en retenais beaucoup. Et puis, après certains petits problèmes récents que j'ai eus, je me suis rendu compte qu'ils avaient plus ou moins disparu. Donc, en ce moment, comme ça, j'essaie de les retrouver.
Oui, vous avez été hospitalisé il n'y a pas très longtemps.
Oui, oui, pas mal de fois. Oui.
Ce qui ne vous a pas empêché de continuer à écrire.
De temps en temps, il faut essayer de réagir.
Avec toujours cette forme d'humour qui est propre à la personne de Jacques Roubaud et au poète qu'il est, Florence Delay, dans ce livre qui est sorti au Seuil, peut-être, ou La Nuit de Dimanche, vous commencez comme ça, vous me permettez de lire ?
Je lis moins
bien, je lis moins bien que vous, mais je me lance. Sorti de l'hôpital sur le coup de Noël 2016, bénéficiant de peut-être quelques mois avant d'y revenir, je décidais d'essayer de m'exercer à l'autobiographie. À mon âge, 84 ans, et dans mon état plutôt précaire, il était temps. Florence Delay, on a envie de poursuivre quand on lit ça.
Ah oui, oui. Non mais de toute façon, ce livre, qui est aussi un livre qui bifurque, pas seulement par les caractères de typographie, mais par sa construction, et c'est un livre captivant et qui éclaire beaucoup de choses.
Votre amitié à tous les deux, qu'est-ce qu'elle a été ? Ça a été une amitié de compagnon de travail aussi, parce que vous avez écrit beaucoup de pièces de théâtre ensemble, par exemple.
Elle est née comme un amour, cette amitié.
C'est-à-dire ?
J'ai aimé le poète Jacques Roubaud, que j'ai rencontré, tout de suite. Il était au tableau noir et il écrivait 5-7-5-7-7. C'était un cours sur une forme poétique japonaise. Donc je l'ai tout de suite lié aux formes.
Et c'était quand ça ?
70.
Il était mathématicien ? Jacques Roubaud,
en mathématicien plus d'être écrivain et poète. Il avait déjà commencé à publier, et mon directeur du FR, qui était Étiamble, l'avait invité à un congrès de littérature comparée pour parler des formes poétiques japonaises. Parce que peut-être il venait d'écrire Monono Aware, ou Le sentiment des choses.
Il confirme.
Voilà, c'est ça.
Et la coup de foudre.
Oui, double coup de foudre. Parce que, de retour à Paris, dans ma boîte aux lettres, je trouve un poème à Florence, qui n'est pas de lui, mais de Robert Desnos. Donc, quasiment, je tombe amoureuse des deux.
Sans avoir besoin de choisir.
Sans avoir besoin de choisir.
Desnos, qui fait partie des hommes importants de votre vie, Jacques Roubaud, que vous relisez aussi.
Oui, j'admire beaucoup Robert Desnos, et j'ai appris beaucoup de ses poèmes, et je pense à lui assez souvent. Par exemple, le début de son épitaphe, « J'ai vécu dans ces temps, et depuis 1000 années, je suis mort. Je vivais non déchu, mais traqué. Toute noblesse humaine étant emprisonnée, j'étais libre parmi les esclaves masqués. » Donc, ce sont les grands poèmes de résistance de Robert Desnos. Et j'ai continué à l'admirer avec les années. Quand j'ai rencontré Florence, une des premières choses que j'ai faites en revenant à Paris, je suis allé voir le film de Robert Bresson, Jeanne d'Arc, que je n'avais pas vu.
Quand les saintes Catherine et Marguerite viennent, y a-t-il toujours quelque clarté ?
Au nom de la voix vient la clarté.
N'avez-vous point vu la clarté cette fois où vous avez entendu la voix dans le château et non dans votre chambre ?
J'ai entendu la voix, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu la clarté, ni même d'avoir vu sainte Catherine ou sainte Marguerite.
N'avez-vous pas dit que pour nous, évêques, il était dangereux de vous juger ?
Méfiez-vous de me juger mal, j'aurais fait mon devoir de vous le dire.
Mais quel est le danger pour nous, évêques ?
Les voix m'ont dit que je serais délivré par une grande victoire pendant le jugement. Elles me disent aussi, prends tout en gré, ne crains pas ton martyr, tu t'en viendras au royaume de paradis.
Et ensuite, j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un que Florence m'avait indiqué, parce que, disait-elle, il pourrait m'expliquer le film de Bresson, qui était un Argentin, qui était venu d'Argentine pour travailler avec Bresson, Hugo Santiago. Et donc je rencontre Hugo Santiago, je dis à Hugo, j'ai vu le film de Bresson, je le déteste, parce qu'il brûle Florence. Je trouve ça honteux. Il est parti d'un éclat de rire énorme, comme il avait souvent, et à partir de ce moment-là, on a été amis.
Vous voulez rajouter quelque chose, Natacha Michel ?
Je voulais simplement qu'on pense à lui parce qu'il vient de mourir et que j'espère qu'il va y avoir des grandes rétrospectives et il faudrait qu'on s'y emploie.
Le premier film de Hugo Santiago est un film culte en Argentine et qui devrait l'être en France.
Plusieurs.
Il s'appelle Invasion, où la présence de Borges est très forte.
Ce qui est remarquable dans film de Santiago, c'est que pas beaucoup de gens ont pu le voir, mais beaucoup de gens qui ont pu le voir ont pensé qu'il s'agissait d'un film qui a été fait après le coup d'État de Pinochet au Chili, parce qu'il se termine dans un stade. Et en fait, non, c'était un film prémonitoire. Et il est prémonitoire d'une manière particulièrement intéressante, parce que tout à fait à la fin, il dit « la prochaine fois, nous y prendrons autrement ».
Something hides in every night, brings desire from the deep, and with it comes a burning light to keep us from our sleep. And as a false star tries his best to make the white pearl shine, glimpses of a new day have arrived. And though he's not alone, he fears to never love another and leave his heart forever with her smile.
I am burning.
Tamino, la révélation belge du moment. Il a 22 ans, Florence Delay. C'est un auteur, compositeur, interprète, beau et doué, qui chantait à l'instant Habibi sur France Inter. J'ai l'impression que ça ne vous a pas déplu.
Ah non, ça m'a beaucoup plu.
Quelque chose de la prière, un peu.
Oui.
Natacha Michel aussi, vous avez noté son nom, Tamino.
Oui. Je suis analphabète en chanson, donc il faut que...
Voilà, vous repartez avec une prescription de France Inter. Jacques Roubaud, je ne vais pas vous faire chanter, sauf si vous souhaitez chanter du Desnos, hein, on l'a chanté, Desnos. Vous pouvez peut-être nous dire un poème, parce que vous avez apporté avec vous beaucoup de choses.
À la demande de Florence, oui. Oui. Je vais lire un poème dans une forme ancienne, qui s'appelle le rondeau. Rondeau du dinosaure qui danse avec les biches. Donnez la main au dinosaure, petite biche, pour danser. Tournez, tournez, tournez encore. Lancez la ronde dans le pré. Un dinosaure, c'est grand, c'est fort, mais pour la danse, c'est pas doué. Donnez la main au dinosaure. Quand vous arriverez au bord de la fontaine, si vous lâchez ses grosses pattes, il va tomber. Ça fera plouf et vous rirez. Donnez la main au dinosaure.
Introducing Jacques Roubaud as a dinosaur.
Le dinosaure et la biche.
C'est plutôt une biche dans ce poème.
Il est capable de parler, Jacques Roubaud, des animaux, d'offrir des poèmes à Florence Delay, qui s'amuse sur un poème, on l'a entendu, mais aussi de célébrer la ligne 29 de cet autobus parisien. L'ode à la ligne 29 est un livre magnifique. Il y a beaucoup de possibles, Jacques Roubaud, Florence Delay.
Ah oui, il n'en écarte aucun. Il a la générosité de la grande poésie. C'est-à-dire, il n'y a pas de petits sujets, il n'y a pas de... On ne sait jamais où on va le trouver, on peut faire le tour du monde. Et puis aussi, il y a le grand Roubaud, alors là, de la réflexion, du grand incendie de Londres, du projet, de ce fameux projet autour duquel il rôde, qu'il pénètre, dont il sort, où il revient. Et voilà, c'est là aussi, finalement, c'est ce beaucoup de vie, des formes en particulier. Il aime les autres. Plus encore que beaucoup plus que lui-même, et lui-même autant que les autres. Donc tout va bien. On est dans le monde tel que je l'aime.
Bien, merci beaucoup Florence Delay d'avoir partagé ces deux heures de grand atelier avec nous.
Merci à vous.
Jacques Roubaud, merci beaucoup d'être venu, d'avoir dit pas mal de vos poèmes. On va rappeler, Florence Delay, le titre du dernier ouvrage de Jacques Roubaud, c'est Peut-être ou la nuit de dimanche, publié au Seuil dans la collection de la librairie du 21e siècle. Et je remercie aussi Natacha Michel, qui a oublié le titre de son dernier livre.
Sortie de route.
Ah, voilà.
Je viens de m'en souvenir.
Voilà, publié aux éditions...
Nous.